La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous toutes et tous ce matin pour ce moment de culte que nous allons partager avec les enfants qui sont là avec l'éducation biblique. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien malgré cet hiver qui n'en finit pas. On a l'impression qu'on a toujours froid ici, hein. Mais en tout cas, ce matin, vous allez voir de très belles choses avec vos moniteurs et monitrices, et cet après-midi aussi, et nous aurons donc une très belle journée avec vous à l'éducation biblique. Bonjour aux catéchumènes qui sont là aussi, alors je ne dis pas les enfants, parce que bon, vous êtes quand même beaucoup plus grands, et nous allons nous partager aussi un thème intéressant pour votre culture biblique. Bienvenue à celles et ceux qui sont par le biais d'Internet avec nous. Nous nous réunissons ce matin dans cette communion fraternelle que Jésus nous montre à travers sa vie, à travers son message et son enseignement. Je vous invite à prendre le premier répond. Les réponses sont ceux de l'éducation biblique et c'est David Cassan qui est avec nous à la tribune d'orgue aujourd'hui. Bonjour David et bienvenue à toi. Nous louons Dieu. Éternel, ta présence est comme une pluie qui tombe sur un terrain moissonné, comme des ondées qui arrosent la campagne. Tu es promesse de vie au cœur même de l'aridité de notre vie quotidienne. Éternel, ta parole nous affranchit de l'oppression, de la violence, car dans l'assurance de ton amour pour le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, nous trouvons les mots pour te confier notre peur et notre espoir dans la promesse du règne qui vient. Nous puisons la force de choisir pour notre vie les chemins de la justice. Dans la certitude de ta fidélité, nous recevons l'audace de rencontrer et de témoigner. Merci Éternel pour nos cœurs et nos yeux qui s'ouvrent sur la simplicité de tes dons et pour la joie qui nous illumine. C'est par elle que ton règne s'avance parmi nous, que tous les rois se prosternent devant toi et que toutes les nations te servent. Je vous invite à chanter ce psaume 72 dans sa version du psautier français. Nous chantons donc ce psaume ensemble, les strophes 1, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir. Et voici la volonté du Seigneur. Voici ce qu'il nous donne la force de faire. Dans Ésaïe 58, il est écrit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. » Nous nous présentons devant l'Éternel. Éternel, nous voici devant toi avec notre vie partagée, avec notre soif de te suivre et nos résistances à ton appel, avec notre désir de t'aimer et d'aimer notre prochain et nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et nos obscurités, avec notre foi et avec nos peurs. Oui, nous voici devant toi tels que nous sommes, et voilà que tu nous appelles à convertir notre regard, à changer d'orientation, à ne plus regarder notre vie selon nos critères et nos points de vue, mais selon les tiens. Tu nous appelles à déposer à tes pieds nos craintes et nos lâchetés, à nous dépouiller de toutes nos illusions et à laisser ta lumière se déposer sur nos ténèbres. Nous voici tels que nous sommes, avec nos doutes et nos contradictions, mais nous voulons te suivre tout de même. Accepte cette repentance, Seigneur, et enracine-nous dans la confiance. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir cette grâce renouvelée sur nous. Ne crains pas, dit l'Éternel, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es précieux à mes yeux, et je t'aime, dit l'Éternel. Va, ta foi t'a sauvé, ton péché est pardonné. Va avec la force que tu as. Et nous restons debout pour entendre cette confession de foi, une confession de foi qu'on appelle la confession de foi de Barmen, écrite en 1934 par l'Église confessante protestante opposée au régime nazi. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. On ne dirait plus ça aujourd'hui. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu le Père a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix. Car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Nous avons à faire nôtre les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, les respects des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner. Il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Aujourd'hui, la lecture que j'ai choisie en cohérence avec le travail que nous avons fait avec les monitrices et moniteurs de l'école biblique, de l'éducation biblique. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, les versets 36 à 50. Un des pharisiens invita Jésus à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, » répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur fit grâce à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. » Il lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Et c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, « Qui est-il, celui qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Mais il reprit et dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Je vais vous inviter à chanter le cantique 178, et pendant ce temps, peut-être, alors les enfants, vous pouvez chanter le cantique et puis ensuite vous sortirez avec vos monitrices et moniteurs. Oui, ça va? Très bien, on fait comme ça. Thank you. Voilà, alors je vous invite à vous asseoir et les enfants vont suivre leur moniteur et monitrice pour aller vivre leur culte à eux. C'est toujours bon signe dans une église quand il y a beaucoup d'embouteillages pour partir à l'école biblique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Je vous invite à la prière. Éternel, au moment où nous te prions, peut-être sommes-nous fatigués, découragés, peut-être même désespérés. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive, nous perdons le sens parfois de notre propre existence. Les événements du monde brouillent notre communion avec toi. C'est alors que tu nous rejoins dans notre marche, mais nous n'arrivons pas à te reconnaître tout de suite. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, c'est toi qui viens à notre rencontre. En expliquant les Écritures, c'est toi qui éclaires notre chemin. Seigneur, nous te prions. Envoie sur chacun et chacune de nous ton esprit. Si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre. Nos compréhensions seront limitées. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole fera sens, notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Viens, Esprit Saint, ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de ta parole. Amen. Malheur à celle par qui le scandale arrive, pourrait-on une fois de plus dire en lisant ce récit. Aujourd'hui, c'est encore une femme qui est le personnage principal de la scène troublante qui se joue ici. Cette femme n'est pas victime, comme Dina, dont nous avons parlé la semaine dernière, mais comme elle, elle ne parle pas. Le narrateur ne lui donne pas de nom et elle n'est la fille de personne cette fois. Elle est seulement qualifiée de pécheresse, ce qui peut vouloir dire qu'elle a pour activité la prostitution. Mais à l'époque de Jésus, on peut être qualifié de pécheresse pour d'autres raisons. Quand on a été répudié et que personne ne rachète sa vie, quand on est adultère et qu'aucun homme ne devient tuteur de ses femmes, et bien sûr, quand on a été souillé, comme Dina. Il est intéressant de noter que la généalogie de Jésus dans l'évangile de Matthieu retient quatre femmes qui sont comme des types de femmes qui ont droit au salut que Dieu promet. Tamar, la femme violée, Bethsabée, la femme adultère, Rahab, la prostituée des murailles, et Ruth, l'étrangère, celle qui ne croit pas au même Dieu qu'Israël. Chez Luc, en revanche, cette typologie se retrouve dans les femmes que rencontre Jésus à l'intérieur même de l'Évangile. Elles ne sont pas ses ancêtres, ni les bénéficiaires de son salut passé, mais véritablement ses vis-à-vis, voire même ses prophétesses. La pécheresse semble évoluer très librement dans une maison où manifestement on ne l'attendait pas. Pourtant, Simon invite Jésus à manger avec lui. Il s'agit peut-être d'un banquet, et c'est dans les banquets que travaillent certaines pécheresses. D'ailleurs, il n'est pas surpris qu'elle soit là, pas vraiment. Il est surtout surpris que Jésus ne se détourne pas d'elle, qu'il la tolère ainsi. Elle qui est à ses pieds, lui qui est censé, dans l'esprit de Simon, être un prophète, il devrait s'apercevoir de ce qui se passe. Or, Simon est pharisien, il connaît l'histoire des prophètes. Et ils sont peu à s'être laissés ainsi cajoler par une femme dans les effluves de parfum. Cette scène est racontée dans les autres évangiles aussi, mais pas au même moment du ministère de Jésus et pas de la même façon. Dans tous les autres évangiles, la femme au parfum fait irruption dans la geste de Jésus après le complot qui le mène à la mort et plutôt vers la fin de l'évangile. Chez Luc, au contraire, la femme au parfum arrive au début, loin des complots et de la crucifixion. La position de ce récit dans les autres évangiles est importante parce qu'elle crée une liaison entre ce parfum répandu sur le Christ et la mort et l'ensevelissement du Christ. C'est comme si le parfum devenait celui des aromates de l'ensevelissement. Ici, chez Luc, les choses sont différentes. La femme au parfum ne nous parle pas de mort, mais d'une façon de vivre. Vous aurez compris l'équation. Un pharisien prétendument observant de la loi de Moïse organise un banquet et y invite un Jésus prétendument prophète et une femme prétendument pécheresse et donc impure se jette sur lui sans qu'il la rejette. Non seulement il ne la rejette pas, mais il la prend en exemple. Et peut-être pire encore, il compare cette femme et son attitude à celle de Simon, son hôte, en faisant un détour par une courte parabole. Deux créanciers se voient remis de leur dette. Voici maintenant que vient se greffer une histoire de dette sur l'événement gênant qui vient de se produire chez Simon. Et c'est là le cœur de l'histoire. Jésus est révélé à ce moment précis comme celui qui remet les péchés, celui qui remet toute dette. Or, dans l'esprit de Simon le pharisien, le péché est une dette presque permanente que l'on a envers Dieu et qu'il faut payer à coups d'offrandes et de sacrifices faits au temple. La vie même, quand elle est marginalisée, peut devenir péché, car l'impureté rituelle ne se résume pas à une action mauvaise, mais s'assimile à un état de vie. Par exemple, ne pas être juif suffisait à être impur de fait. Être porteur de handicap, être malade, être une femme sans mari ou frère pour vous racheter, suffisait aussi à être mis au ban de la pureté du temple. Alors, évidemment, cette femme qui arrive chez Simon et traite amoureusement Jésus en se tenant à ses pieds et en utilisant sa chevelure pour essuyer ses pieds n'a rien d'une femme pure selon les codes du pharisianisme. Elle ressemble à une esclave non juive ou à une prostituée qui ne peut donc plus être considérée comme une part du peuple saint. Mais la parabole des créanciers donne un nouveau relief à ce que fait cette femme en entrant chez Simon. Pleurant aux pieds de Jésus, elle pourrait être vue comme l'implorante de Rodin, une femme amoureuse attendant le même amour en retour. Selon les codes de son temps et selon la religion de ses hôtes, cette femme est en train, en fait, de se repentir, de s'humilier, sur le sac et sur la cendre, comme le disent les prophètes dans le Premier Testament, ou encore Job, qui qui ne sait pas ce qu'il a fait de mal, mais accepte de se reconnaître pécheur puisque tout est contre lui. Mais la femme pécheresse, telle qu'on l'appelle dans ce texte, ne se contente pas seulement de cette attitude. Elle verse de l'huile parfumée sur les pieds de Jésus. Ce geste ne se rapproche pas de l'onction qu'on faisait au roi ou au prêtre, sinon il aurait fallu qu'elle verse l'huile sur la tête de Jésus. Ici, elle fait un geste d'accueil avec ses larmes et cette huile parfumée. Elle fait ce que les hôtes font pour accueillir leurs visiteurs et les honorer quand ils ont fait une longue marche pour arriver jusque-là. On leur propose de quoi se laver les pieds. Le parfum dans l'Antiquité est une denrée toujours précieuse et liée au luxe, et cette femme ajoute ce luxe sur ce geste d'hospitalité. Mais c'est aussi, ce parfum, une denrée liée au mystère de la dévotion. La communication avec les dieux dans l'Antiquité se fait par les parfums et les fumées odorantes. Quand on présente un animal au temple en sacrifice, la part qui revient à Dieu est rôtie pour que la bonne odeur de la fumée monte jusqu'aux narines de Dieu. Et oui, dans la Bible, Dieu a des narines. Pour faire monter les prières vers Dieu, on utilise les encens. Et il y avait même une recette précise pour élaborer le mélange odoriférant qui plaisait à Dieu. Dans le livre de l'Exode, on peut lire « Le Seigneur dit à Moïse, prend des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanium, des aromates et de l'encens raffiné en parties égales. Tu feras avec cela un encens parfumé, ouvrage de parfumeur. Il sera salé, pur et sacré. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre, là où je te rencontrerai. Ce sera une chose très sacrée pour vous. Quant à l'encens que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Il sera pour toi consacré au Seigneur. Quiconque en fera un semblable pour en sentir l'odeur sera retranché de son peuple. » Il y a donc des parfums qui sont réservés aux narines de Dieu et qui ne peuvent pas être sentis ailleurs. Mais avant de parler de cette recette d'encens, le livre de l'Exode nous offre une autre recette, celle d'une huile parfumée qui ressemble grandement à celle qu'a apportée cette femme chez Simon. Une huile parfumée qui a de quoi nous faire réfléchir sur le geste de cette femme et tel que c'est raconté dans l'Évangile. Dans le livre de l'Exode, il est donc écrit « Le Seigneur dit à Moïse, toi prends des meilleures essences odoriférantes, de la myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, 500 cycles, du cinnamome odoriférant, la moitié, soit 250 cycles, du roseau odoriférant, 250 cycles, de la casse, 500 cycles, selon le cycle du sanctuaire, là aussi la mesure est particulière, et de l'huile d'olive, un hin. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sacrée, une composition de parfum, ouvrage de parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sacrée. C'est avec elle que tu conféreras l'onction à la tente de la rencontre et au coffre du témoignage, à la table où sont tous ses ustensiles, aux porte-lampes et à ses ustensiles, à l'autel de l'encens, à l'autel des holocaustes et à tous ses ustensiles, à la cuve et à la base, tu consacreras ces choses et elles seront très sacrées. Tout ce qui touchera ainsi à ces objets sera consacré. Tu conféreras l'onction à Aaron, le prêtre, et à ses fils, et tu les consacreras enfin, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu diras aux Israélites, ce sera une huile d'onction sacrée pour moi dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un être humain et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sacrée, elle sera sacrée pour vous. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un profane sera retranché de son peuple. Là aussi, l'huile odoriférante, faite dans ses proportions énormes, on parle de nombreux litres ici, hein, ce n'est pas une huile toute petite dans un petit flacon. Tout cela est réservé à Dieu. Et rien ne peut, avec cette huile, être touché qui soit profane. Même le corps d'un être humain n'y est pas admis. Et voici la femme pécheresse transformée en Moïse tout à coup, chez Simon le pharisien, qui doit y reconnaître quelque chose à coup sûr. Elle est porteuse d'une nouvelle loi, une loi que Jésus va lui-même définir en disant « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé. » Et il précise son propos en disant « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » La femme pécheresse a fait un acte prophétique. Comme Moïse, elle a consacré ce qui est sacré aux yeux de Dieu. Elle a fait rituellement le rituel de l'attente de la rencontre, du temple. Avec l'huile parfumée, elle a fait cette consécration et elle l'a faite humainement, avec ses gestes d'hospitalité. Le repentir, ses larmes et le don d'elle-même au service de cet envoyé de Dieu qu'elle reconnaît comme consacrée à Dieu. Avec l'onction que cette femme a faite, Jésus est devenu temple de Dieu, tente de la rencontre entre les humains et leur Dieu, entre ceux qui cherchent sa grâce et ce Dieu qui la donne apparemment si difficilement avant et tout à coup si facilement dans cette maison de Simon. Cette femme est un témoin de l'amour de Dieu donné en Jésus, et ce témoignage de foi l'élève au rang de prêtre du Seigneur. La loi de Moïse, faite de séparation entre le pur et l'impur, de précautions multiples pour ne pas retomber dans un chaos originel, devient dans ce moment que Luc a voulu inaugural, au début de l'Évangile, une loi d'amour, amour de Dieu et amour du prochain, liés ensemble par une bonne odeur, par un parfum. Jésus se révèle comme celui qui peut remettre les péchés, cette dette qui empêchait les êtres d'avancer et d'être véritablement libres, qui les remettait sans cesse dans la culpabilité. Cette dette qui les tenait toujours pour des impurs potentiels, menacés par le désordre de l'impureté. Grâce à cette épiphanie qui se produit chez Simon, entre cette femme et Jésus, dans laquelle le Dieu d'amour se fait proche et nous rencontre, la grâce se fait présente comme un parfum d'amour. Amen. Je vous invite à prendre le cantique 222 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Et c'est Denis de notre conseil presbytéral qui va partager avec nous les annonces. Merci Denis.
Bonjour chers amis et chers amis de la paroisse et chers amis qui nous regardez à travers la caméra. Merci beaucoup Madame la Pasteur pour cette belle prédication. Merci à David Cassan à l'orgue et à Madame Delin pour avoir préparé ce lieu pour ce culte. À présent, les annonces. Eh bien, cette semaine à la maison presbytérale, vous avez de toute façon ces nouvelles dans la feuille rose, tout à la fin. Il y aura la réunion du groupe protestant des artistes demain et les cours de grec et grec biblique. Dimanche prochain, Madame la Pasteur donnera le culte de nouveau à 10h30. Et puis ensuite, vous serez tous invités à déjeuner à midi et demi, et de midi et demi à 1h30 à la salle Mono, aux 4 rue de l'Oratoire du Louvre. Et ce moment ensuite sera suivi d'une initiation au protestantisme. Et ce mois-ci, le thème sera symbole, mémoire et communion dans la scène. Voilà, le thème sera la scène. Aujourd'hui aussi, à l'issue de ce culte, nous vous proposons de vous retrouver, de discuter ensemble dans notre toute neuve sacristie, la grande sacristie, tout là-bas, pour un verre de l'amitié. Merci beaucoup pour votre attention. Peut-être, je pensais qu'il y aurait des gâteaux et des annonces,
alors,
mais vous trouverez
nous
peut-être
des
scouts aussi à la sortie pour proposer des gâteaux. Voilà. À présent, c'est le moment de l'offrande. Dieu aime le don joyeux. Merci beaucoup.
Merci Denis. Et tu peux m'appeler Béatrice.
D'accord.
Voilà, on va reprendre la parole pour, enfin, on va la donner plutôt à notre ami scout qui était là, dehors, et qui ne savait pas que c'était le moment. Alors, n'hésite pas à prendre. Alors, Chiara, peut-être tu peux aider pour le micro. Voilà, la demoiselle qui est là, et nous allons écouter ce que tu vas nous annoncer maintenant.
Donc bonjour, on est le nouveau clan des éclaireuses de l'oratoire et donc on fait une sortie gâteau dehors avec les autres filles de mon clan pour financer notre camp. Donc enfin merci de votre participation, voilà. Merci beaucoup.
Merci. Merci beaucoup. Voilà, et pendant que la collecte s'achève, je vous invite à nous rassembler dans la prière. Éternel, tu nous rassembles à l'écoute de ta parole et nous voyons dans les évangiles combien il est essentiel de regarder les enfants de Dieu au-delà de tout jugement, de toute condamnation, de tout a priori qui masquerait leur véritable côté précieux. À travers cette femme pécheresse éternelle, nous entendons notre propre difficulté à vivre avec toi et nous entendons cette communion qui existe entre toutes celles et tous ceux qui viennent chercher un secours dans ta parole, dans la prière. Éternel, nous te remettons ce que nous voyons dans notre actualité, cette violence inouïe, ces paroles de mépris, ces désirs de paix bafoués, ces tentatives de cohésion impossibles. Éternel, remets-nous dans une grande espérance, de ces espérances qui permettent de venir chercher le secours quand bien même il semblerait que tout soit perdu. Permets que nous puissions nous tenir debout, capables de supporter ces attaques constantes à la vérité, à la dignité humaine, à la loyauté. Éternel, nous te demandons de te rester fidèle et de ne pas ployer sous le poids de ce désespoir qui semble partout. Rappelle-nous qu'à toute époque, dans toute menace, dans tout conflit, des hommes et des femmes se sont levés pour tenir et pour rappeler qu'un être humain vaut plus que les velléités de quelques dictateurs. Rappelle-nous que nous avons plus de force et plus de paix en nous, que c'est paix à moitié, cette façon de faire la paix sans la vouloir, semble nous décourager. La paix est en nous. Et même si par malheur la guerre arrive, la paix est en nous. Rappelle-nous sans cesse cette humanité que nous devons partager et cette espérance que nous devons propager. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta violence. Donne-nous toujours notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, quand la violence gronde, soyez sages. Quand les nouvelles sont mauvaises, portez l'espérance et la joie. Vous ne serez pas naïfs, vous ne serez pas à côté de ce qui se passe réellement, vous serez dans la vie même que Dieu vous promet. Et vous permettrez à chacun autour de vous de reprendre souffle et de pouvoir combattre pour ce bien que Dieu aime et veut nous voir accomplir dans ce monde. Alors soyons unis, soyons solides et soyons attentifs pour nos frères et sœurs dans l'humanité, afin que l'amour de Dieu puisse se comprendre et se vivre sur notre terre. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui fait grâce à chacun et qui vous dit « va en paix », vous donne sa paix pour que vous puissiez mener son bon combat. Soyez ensemble sous cette grâce et cet amour. Amen.